France Musique. Musique et moi.
Diane de Sellier,
Priscille Lafitte, France Musique.
Quand le mistral ou la tramontane ne soufflait pas trop fort, je venais me mettre entre deux roches au ras de l'eau, au milieu des goélands, des merles, des hirondelles, et j'y restais presque tout le jour dans cette espèce de stupeur et d'accablement délicieux que donne la contemplation de la mer. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette jolie griserie de l'âme? On ne pense pas, on ne rêve pas non plus. Tout votre être vous échappe, s'envole, s'éparpille. On est la mouette qui plonge, la poussière d'écume qui flotte au soleil entre deux vagues, la fumée blanche de ce paquebot qui s'éloigne, ce petit corailleur à voile rouge, cette perle d'eau, ce flocon de brume, toute excepté soi-même. Oh, que j'en ai passé dans mon île de ces belles heures de demi-sommeil et d'éparpillement. Voilà ce que nous dit Alphonse Daudet dans Les Lettres de mon moulin, le phare des sanguinaires.
Thank you.
Bonjour Diane de Cellier.
Bonjour Priscille.
Bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin dans Musique et moi. Je précise que nous faisons cet entretien à distance. Nous venons d'entendre le concerto pour hautbois de Mozart, que c'est le 314, le premier mouvement. Est-ce que Mozart suscite en vous cette griserie de l'âme dont parlait un instant Alphonse Daudet?
Oui, Mozart, et surtout j'aime beaucoup ses morceaux pour hautbois et orchestre, parce que le hautbois est une griserie de l'âme en soi. C'est-à-dire que c'est une musique tellement joyeuse, tellement enlevée, et qui met l'âme en allégresse. Et pour moi, c'est d'autant plus important que c'est une musique que j'écoutais depuis l'enfance, parce que j'ai des souvenirs de ma mère dans son salon, qui écoutait de la musique classique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on entrait dans la pièce, on avait cette espèce de griserie de se retrouver au milieu d'un concert. Et j'étais particulièrement sensible déjà à l'époque au hautbois, et je le suis encore aujourd'hui.
Et ce qui est joli dans ce choix de citation, c'est que, si je ne me trompe pas, vous êtes vous-même face à la mer en ce moment.
Eh oui, elle est belle, la mer.
C'était l'interprétation de l'ensemble Les Dissonances de David Grimal, Alexandre Gattet au hautbois. Et je me demande ce qu'est cette façon de travailler qu'a trouvé l'orchestre Les Dissonances, un travail collectif, sans direction d'orchestre. Qu'est-ce que cette façon de travailler vous inspire à vous en tant qu'éditrice de livres d'art? Est-ce que vous travaillez beaucoup seule ou en équipe?
Alors au début, je travaillais beaucoup seule, mais au fil du temps, j'ai travaillé de plus en plus en équipe et je me retrouve, et surtout avec le livre que nous avons publié l'an dernier, La Genèse de la Genèse, illustré par l'art abstrait, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'on travaillait sans chef d'orchestre. Il y avait d'une part Marc-Alain Wachnin, qui était l'auteur de cette nouvelle et remarquable traduction des 11 premiers chapitres de la Genèse, de la création du monde à la tour de Babel, et toute l'équipe du bureau qui était en train de l'écouter traduire, et nous sortions des images de l'art abstrait pour essayer de voir lesquelles rentraient en résonance. Et il y avait cette espèce d'entente incroyable avec personne qui avait le pas sur l'autre, mais où nous sortions des images, parlions, réfléchissions, exprimant ce que chaque image révélait en nous ou relevait en nous pour s'adapter au verset, et on a avancé comme ça de façon remarquable. Et c'est vrai que de plus en plus et depuis de plus en plus souvent, nous travaillons dans cette espèce de collectif avec toute une équipe très, très motivée et sur la même longueur d'onde.
Alors, on va découvrir dans cette émission qu'à chacune de vos parutions sont rattachés des événements de votre vie, des musiques aussi. Viennent ainsi de paraître aux éditions qui portent donc votre nom, Diane de Cellier, Les Contes de Perrault illustrés par l'art brut, un magnifique vis-à-vis entre la tradition orale et des peintures qui parlent directement à nos sens. Je crois que vous rééditez également en petite collection La Légende Dorée. Mais avant de feuilleter ensemble ces ouvrages, nous allons comprendre d'où vous venez, Diane de Cellier. On a compris que vous avez grandi dans un environnement où Mozart était un compagnon familier. Je vous propose d'aller un peu plus loin dans les émotions de votre enfance en écoutant une archive du concours Reine-Élisabeth, qui date de 1968, qui a été mise à notre disposition très aimablement par la radio de service public belge, la RTBF. On comprend donc que vous avez grandi en Belgique. Car cette année-là, en 1968, une adolescente russe âgée de 16 ans et demi remporte le premier prix, Ekaterina Novitskaya. Thank you. Diane de Sellier, vous étiez dans le public du concours Reine-Elisabeth cette année-là de 1968 quand Ekaterina Novitskaya a emporté le premier prix avec ce premier concerto de Tchaïkovski.
Alors j'ai eu la chance immense d'avoir été invitée par une de mes tantes, je ne sais pas pourquoi moi, dans une fratrie où nous étions 6 enfants à se suivre tous à un an près, j'ai été invitée à aller assister au final du concours Reine-Élisabeth. Et donc c'est la première fois que j'entendais le concerto de Tchaïkovski. Et quand j'ai vu cette jeune femme, cette adolescente qui s'envolait sur le piano, elle m'a fait partir dans des rêves absolument incroyables. Et quand j'ai appris quelques jours après qu'elle était la lauréate du concours, là je n'ai plus qu'une seule passion, c'était Tchaïkovski et Ekaterina Novitskaya. J'ai demandé aussitôt pour Noël d'avoir un exemplaire du disque et je l'écoutais en boucle tous les soirs. Et ce qui est extraordinaire avec une musique qu'on écoute en boucle comme ça, c'est qu'elle vous raconte tous les soirs une histoire différente et les images qu'elle nourrit deviennent de plus en plus riches. Et quelque part, je pense que c'est une œuvre qui a énormément emporté mon imaginaire.
Vous avez quel âge à l'époque, vous ?
J'avais 13 ans. C'était la première fois que j'étais emmenée à quelque chose pour les grands. Ce sont été mes premiers banilons. J'avais l'impression que pour une fois, on me traitait comme une grande. Et donc, j'étais investie en plus de cette fierté qui était très, très stimulante.
Et donc, cette jeune pianiste représentait un modèle d'émancipation, de réussite pour vous ?
D'émancipation, de réussite certainement, de sensibilité, de courage, de ferveur. Donc elle a vraiment été pour moi, et cela a duré au moins 2 ou 3 ans, elle a été pour moi un modèle.
C'est étonnant d'ailleurs de noter qu'à ce même concours de 1968, François-René Dufiable est arrivé 11e dans le palmarès et a fait la carrière que l'on connaît. Vous avez donc grandi en Belgique, dans quel environnement ?
J'ai grandi dans un environnement très privilégié. On habitait dans une belle maison qui était à peu près posée sur l'eau. On était élevé au milieu des canards, des cygnes, des oies, dans un environnement très, très champêtre et en même temps très proche de la capitale de Bruxelles où nous allions à l'école. Et en même temps, on était 6 enfants à se suivre tous à un an près. Il y avait un petit peu une rivalité entre nous et j'étais le numéro 5.
Est-ce que vous avez appris le piano ? Vous me parliez jamais, de votre fascination pour Ekaterina Novitskaya.
Non, jamais, parce que je n'ai jamais éprouvé spécialement le désir de l'apprendre. Et d'une part, ma mère, qui avait été obligée de jouer au piano dans son enfance, je crois, avait trouvé ça très ennuyeux et n'avait pas voulu nous imposer ça. Et donc, mon refuge et mon bonheur à moi, c'était de me réfugier dans les arbres et de lire. Et je lisais, quand j'avais 9 ans déjà, je lisais Jules Verne et j'étais passionnée par cela. Et puis je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main et c'était vraiment une très 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 belle évasion pour moi.
Diane de Sellier, vous avez demandé à écouter le Molto Vivace de la 9e symphonie de Beethoven parce que vous avez nourri une fascination pour l'univers de Kubrick et d'Orange Mécanique, ou parce que vous avez été particulièrement transporté par la force de cette symphonie?
Les deux, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert cette symphonie en découvrant le film d'Orange Mécanique, et j'ai été bouleversée par la puissance de cette musique, de ses accents, de ses élans. Beethoven était aussi un compositeur qu'on entendait souvent à la maison, mais ce morceau-là, cette 9e symphonie, m'a vraiment été révélée avec les différents passages dans Stanley Kubrick, que j'avais eu l'occasion de voir dans des conditions très particulières. En fait, j'avais 15 ans. J'avais fait le mur pour pouvoir aller rejoindre des amis plus âgés, avec l'interdiction formelle de voir ce film parce qu'il était trop violent pour une jeune fille de 15 ans. Et donc il y avait la transgression, il y avait la puissance de la musique, il y avait Stanley Kubrick, il y avait toute cette ambiance qui m'a rendu la musique encore beaucoup plus personnelle et beaucoup plus forte. Et j'ai adoré ça, je l'ai aussi écouté en boucle. En fait, j'avais une sacrée tendance à tout écouter en boucle une fois que j'aimais un morceau, jusqu'à saturation. Et la saturation pouvait arriver au bout de quelques mois, parfois même d'un an. Et pendant ce temps-là, je dormais avec ma sœur cadette, je lui imposais mes musiques à longueur de nuit, à longueur de soirée, à longueur de journée. Et je pense que ce côté très extrême de la musique, du film, de l'Orange Mécanique, de tout cela, ont énormément stimulé ma créativité et mon désir d'aller toujours plus loin dans la recherche, dans le désir, dans l'exploit finalement, le défi.
Donc la musique de Beethoven est toujours auréolée d'une émotion excessive, un petit peu d'une fureur, d'une folie.
Oui, mais c'est très étonnant parce que de le réécouter comme ça avec vous réveille énormément d'images en moi, et c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'écoutais plus, et je me rends compte qu'il a toujours la même force de musique et d'effet sur moi qu'elle avait déjà il y a quelques années.
Un extrait du Laudate Pueri Dominum de Vivaldi, Sandrine Pio, accompagnée de l'orchestre Academia, dirigé par Ottavio D'Antoni.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Diane de Cellier est l'invitée de Musique et moi ce matin. Diane, est-ce que cette musique vous apaise particulièrement ?
Elle m'a énormément apaisée quand j'étais enceinte de mes premiers enfants. Je dis mes premiers enfants parce que j'étais enceinte de jumeaux, de jumelles très exactement. Et donc, c'est une musique que j'écoutais de nouveau en boucle pendant toute ma grossesse. Et je me suis rendu compte après la naissance des enfants que chaque fois que je mettais cette musique, ça les calmait énormément. Donc finalement, ça calmait toute la famille. Et c'est vrai que je trouve que c'est un hymne d'une telle joie et d'une telle beauté, un tel hymne aux enfants que j'ai encore un plaisir énorme à l'écouter aujourd'hui et je me revois de nouveau des années en arrière avec ces deux bébés que je berçais dont les pleurs se calmaient en écoutant la musique.
Vous avez donc entrepris de monter une maison d'édition qui porte votre nom tout en portant 4 enfants ? Si j'ai bien compris.
Oui.
Vous avez dit au début de cette émission que vous aimez travailler de façon horizontale, collective, mais que vous avez tout de même travaillé longtemps seul. Et vous avez réussi à imposer votre nom à la tête d'une prestigieuse maison d'édition, ce qui n'est pas rien pour une femme dans le monde de l'édition. Comment vous l'avez vécu ?
Écoutez, j'ai vécu avec énormément de joie, mais en même temps, tout s'est enchaîné de façon, je dirais, presque évidente. J'avais déjà quelques années de métier en travaillant pour différents éditeurs. J'avais monté très rapidement ma petite maison d'édition éponyme où j'avais sorti un guide des sports à Paris et un livre considéré comme le Goemio de la petite enfance qui s'appelait Le Paris des tout-petits. J'avais pas encore d'enfant à ce moment-là. Et puis, un jour, l'éditeur pour lequel je travaillais nous avait expliqué qu'il ne fallait plus faire de livres chers parce que les circonstances économiques ne le permettaient pas. Et je venais de découvrir un livre absolument extraordinaire qui était Les Fables de La Fontaine en 4 gros volumes illustrés par Jean-Baptiste Oudry au XVIIIe siècle. Et quand j'avais vu ce livre, avec l'intégralité des fables, il y en a quand même 245, et les 275 planches en couleur de Jean-Baptiste Oudry, mon sang d'éditeur n'a fait qu'un tour et j'ai voulu absolument le publier. Et comme l'éditeur pour lequel je travaillais, qui était à ce moment-là un éditeur belge, avait refusé de le prendre, j'ai pu reprendre ma propre liberté et le publier dans ma maison d'édition. Et ça a été un énorme succès. On a eu l'occasion de le réimprimer à plusieurs reprises. Là-dessus, j'ai pu faire les Contes de La Fontaine illustrés par Jean-Baptiste Oudry, aussi un énorme succès. Donc il y a eu 2 livres à 2 ans d'écart, 2 succès. Et puis j'ai publié La Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli, qui est une aventure aussi absolument incroyable. Et donc ça a été un 3e énorme succès. Et ces 3 livres, qui ont été publiés en 92, 94 et 96, sont aujourd'hui encore parmi les tout bons livres de la maison d'édition. Et ils m'ont permis d'avoir une base très très solide pour lancer ma maison d'édition.
Il y a bientôt 30 ans donc, ce lancement. Et l'un de vos premiers ouvrages reprend l'Iliade et l'Odyssée d'Homère.
Thank you.
Cette toccata qui ouvre l'Orfeo de Monteverdi vous met en joie, j'imagine, Diane de Cellier. On entendait l'interprétation du concerto vocale de René Jacobs. Elle réveille quoi chez vous, cette toccata?
Écoutez-moi, elle réveille une espèce de rentrée dans un état de concentration, comme un espèce de long tunnel que je franchis pour arriver à m'extraire de tout ce qui se passe autour de moi et me plonger au milieu de la nuit dans la lecture des images de Mimmo Palladino pour l'Iliade et l'Odyssée et de me plonger dans le texte qui l'accompagne pour essayer de sortir la phrase qui va rentrer en résonance avec l'image. C'est quelque chose que je faisais tous les soirs pendant des mois, une fois que les enfants étaient couchés, c'était écouter cette ouverture, mettre la musique très très fort jusqu'à ne plus l'entendre et m'abstraire complètement de tout ce qu'il pouvait y avoir autour de moi. Et là, je commençais effectivement à lire ces images extrêmement sensibles de Mimmo Palladino qui a effleuré l'Iliade et l'Odyssée, qui est arrivé avec une sensibilité absolument incroyable pour montrer les drames les plus affreux, mais tout en légèreté, tout en suggestion, tout en finesse, et sans jamais avoir de détails d'images qui alourdiraient la lecture. Et donc la difficulté a été, et en même temps le bonheur a été, d'essayer de trouver la phrase qui rentrait vraiment en résonance. Et c'était avec cette ouverture que je commençais en général à travailler, et puis j'enchaînais sur le retour d'Ulysse, évidemment, de Monteverdi, et toute la musique baroque qui me portait beaucoup.
Donc cette toccata éveillait vos sens, si j'ai bien compris, et le retour d'Ulysse dans sa patrie vous permettait d'entrer dans la réflexion.
Voilà, absolument.
Oh, dolente sospiro, piange l'offesa, e contro il tenace offensor ne pulsa d'ira. All'animo affamato porto le sue discolpe, a ciò non resti di crudeltà macchiato, ma fa prude miei danni.
Diane de Sellier, on entendait à l'instant la voix de Bernarda Fink dans cet air de Pénélope du retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi. Est-ce que la voix ne vous déconcentre pas? Vous disiez écouter cette œuvre la nuit pour travailler.
Non, elle ne me déconcentre pas parce que je connais la musique, parce que je l'ai écoutée très souvent, très attentivement. Et donc, une fois que j'arrivais à m'extraire de la musique elle-même, c'est comme si c'était autant de repères et de confort qui me permettait vraiment mon isolement dans le texte et dans la musique. C'est un très très beau passage, ce passage où Pénélope pleure toute sa douleur de voir qu'Ulysse ne rentre pas, et avec Ericlée, sa nourrice, qui est en train de se pleurer avec elle. On est en fait en plus dans un point clé de l'Odyssée, c'est-à-dire la moitié du livre, le chant 13, où Ulysse va enfin rentrer dans sa patrie. Et en écoutant cette musique, je vois une des images de Mimmo Palladino dans notre édition de l'Odyssée, qu'on a sorti d'ailleurs dans la petite collection l'an dernier, donc on peut se le procurer sans avoir l'Iliade, seulement l'Odyssée et les 100 dessins de Mimmo Palladino. Et pour exprimer les larmes de Pénélope, il a utilisé une encre noire, il a dessiné deux yeux et la trace des larmes sur la joue. Il n'a même pas dessiné le visage. Et dans cette suggestion des larmes de Pénélope, en écoutant la musique là à l'instant, je retrouve en même temps le dessin, je retrouve ce mélange de littérature, de musique, de peinture, et j'ai l'impression qu'on est tous dans une même résonance qui rend ces grands textes encore plus importants pour nous, parce qu'ils expriment tous les tréfonds de notre âme. Quand vous pensez que le prologue au retour d'Ulysse, dans le livret qu'a écrit Giacomo Badoara, il parle de la fragilité humaine qui se trouve en face du temps, du destin et de l'amour. Et on est tout de suite plongé dans l'ambiance de ces grands textes de mythologie qui me nourrissent depuis tellement longtemps, parce que on a absolument toutes nos émotions qui sont exprimées par d'autres, avec en même temps le recul du temps, avec en même temps l'intervention des dieux et des héros, mais ils ne parlent jamais que de nous, et on s'y retrouve d'autant plus facilement qu'ils ne sont pas là, nos voisins, aujourd'hui, si vous voulez.
Alors, j'aimerais qu'on évoque un autre de vos ouvrages, une autre correspondance musicale. Ce sont les Métamorphoses d'Ovide, que vous avez réédité là tout dernièrement, et que Benjamin Britten a prévu pour hautbois seul, ce qui est assez étonnant. Vous parliez plutôt de votre amour pour le hautbois, et ça tombe bien. Diane de Sellier, est-ce que vous apercevez Narcisse dans cette composition de Britten?
J'aperçois non seulement un Narcisse, mais j'aperçois aussi Écho. Et j'aperçois même encore plus Écho qui est en train de tourner autour de Narcisse. Et en vous écoutant, j'étais en train de feuilleter mon édition des Métamorphoses d'Ovide. Et j'avais de nouveau un écho entre la musique, l'image et le texte. Par exemple, ici, je suis devant une image du Lorrain qui s'appelle « Paysage avec Écho et Narcisse ». Et on voit toutes ces nymphes qui sont cachées dans les bois, et Narcisse qui est allongé au bord de la rivière, et puis Narcisse qui contemple son image. Et on lit « Donc à peine a-t-elle vu Narcisse errant à travers les campagnes solitaires que, brûlée de désir, elle suit furtivement ses traces. Plus elle le suit, plus elle se rapproche du feu qui l'embrase. » Il y a tout un jeu entre Écho et Narcisse, avec Écho qui essaie de se rapprocher de Narcisse, Narcisse qui lui dit « Éloigne-toi !» et elle qui reprend « Réunissons-nous, unissons-nous !» Et il y a cette espèce de jeu que le hautbois rend magnifiquement bien. Et puis je tourne deux pages et je vois Narcisse contemplant son reflet dans l'eau, comme autant de petites gouttes d'eau, comme autant de petites notes de hautbois. Et il y a ce magnifique tableau du Caravage, tandis qu'il boit, et pris de son image qu'il aperçoit dans l'onde, il se passionne pour une illusion sans corps. Il prend pour un corps celui qui n'est que de l'eau, il s'extasie devant lui-même. Et je trouve que le hautbois a une façon de rendre cette émotion, ce jeu très subtil entre le regard vers soi et une écho qui cherche à se rapprocher et à exprimer son amour et qui va se transformer en écho, justement. Je trouve que c'est un passage magnifique que Britten l'a incroyablement bien rendu.
Et qui était ici interprétée par la Britannique Sarah Francis. Diane Sellier, comment fait-on pour plonger dans la recherche iconographique sans se perdre? Est-ce qu'on trouve son propre reflet dans la peinture?
Alors, oui, j'imagine que oui, mais je vais vous donner l'exemple justement des Métamorphoses d'Ovide, puisque nous y sommes. Quand j'ai voulu publier les Métamorphoses d'Ovide, je ne savais absolument pas comment l'illustrer. Donc, on a commencé à faire des recherches tout azimut. On partait de la Renaissance italienne et on allait jusqu'au XXe siècle. Et puis petit à petit, en rassemblant des images et en lisant le texte des Métamorphoses, je me suis rendu compte que c'est à l'époque baroque que les artistes avaient le plus travaillé sur la mythologie et sur les Métamorphoses d'Ovide, et qu'en plus c'était les images qui résonnaient le mieux avec le texte, parce qu'elles avaient cette espèce de puissance des corps, de générosité dans le dessin, d'abondance des formes, d'excès dans tout genre, comme Ovide lui-même parle de l'amour avec énormément d'excès et de violence, et parle des tromperies entre les hommes et parle des amours possible et parle des métamorphoses qui sont reproduites par la peinture baroque presque mot à mot et scène par scène. Et c'est ça qui est tout à fait fabuleux dans le travail que je peux réaliser comme ça, c'est que j'ai une double lecture des textes parce que l'image me nourrit et me permet d'aller encore plus loin que le texte pour comprendre toute la psyché humaine et tout ce qu'il nous parle au plus profond de nous. L'image, le texte et puis la musique, parce que la musique, quand j'entends ce morceau de Britten, c'est un accompagnement extraordinaire pour avoir tous les sens qui sont pris en même temps dans la découverte de ce que les grands auteurs ont pu écrire pour parler de nous.
Oui, ça fait de belles correspondances, je trouve, aussi, ce matin.
Yeah.
un plein chant tiré de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, compositeur et écrivain qui a vécu à Reims au XIVe siècle, un représentant de l'esthétique Ars Nova que chérit particulièrement l'ensemble Grain de la Voix de Björn Schmelzer.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Diane de Sellier, vous ne nous avez pas encore raconté comment est-ce que vous procédez à tout ce travail de collecte de l'iconographie, des peintures. J'imagine que ce qui a changé en 30 ans, c'est l'accès à Internet. Est-ce que ça a changé votre méthode de travail? Ou est-ce que vous êtes resté à une façon très artisanale de procéder?
Ça a changé notre façon de travailler, mais progressivement. Mais je voulais vous dire combien j'étais émue par ce passage de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. Et en écoutant cette phrase, « Vierge Mère de Dieu, celui que l'univers ne suffit pas à contenir, s'est enfermé en ton sein pour se faire homme. » Je crois que c'est celui que l'univers ne suffit pas à contenir, c'est une façon d'exprimer l'humanité de la façon la plus belle qui soit. Voilà, bon. Ça, c'était ma petite parenthèse.
Merci.
J'étais très, très émue par cette musique et je pense que c'est ce genre de moments qui sont vraiment des moments bénis, qui me donne la force de poursuivre dans cette aventure de recherche éditoriale et de recherche iconographique et de franchir tous les obstacles que nous pouvons rencontrer quand nous rassemblons des œuvres pour aller avec l'un ou l'autre livre. Et avant, nous n'avions pas Internet, donc on a travaillé pendant une quinzaine d'années sans l'aide d'Internet. Alors c'était des recherches dans les bibliothèques, c'était des recherches auprès des collectionneurs, auprès des marchands. C'était vraiment une enquête journalistique et les métamorphoses de vide en est un exemple très important. J'ai voyagé absolument partout, en Belgique où il y avait pas mal d'œuvres baroques. J'ai voyagé en Italie pour aller voir des plafonds dans des maisons, pour aller voir dans les musées des œuvres qui n'étaient pas reprises dans des catalogues et dans des livres d'art. Donc il y avait vraiment un travail très très important. Et quand Internet est arrivé, ça nous a un peu déstabilisés au début parce que il fallait se rendre compte qu'Internet n'était pas une solution miracle, que c'était jamais qu'une autre façon de chercher, un autre accès à toutes ces œuvres, qui en plus s'est fait très progressivement, parce que ce que nous avons aujourd'hui sur Internet, parce que comparé à ce que nous avions il y a une quinzaine d'années, n'a évidemment rien à voir. Donc même encore aujourd'hui, et c'est peut-être de cela dont je m'enorgueille le plus, on continue à faire de la recherche hors Internet, en allant dans les musées, en allant dans les bibliothèques, en découvrant des œuvres in situ qui n'ont jamais été reprises ailleurs. Et c'est là aussi où le résultat de nos travaux sort certainement de l'ordinaire, c'est qu'on ne ménage aucune piste de recherche pour être au plus proche du texte avec les images que nous offrons au lecteur, pour vraiment créer cette résonance.
Quelle chance vous avez de travailler ainsi. Peut-être que l'émotion que vous avez ressentie aussi à l'écoute de l'ensemble Grain de la Voix, c'est parce que ce chœur, cet ensemble, réunit des voix singulières qui sont porteuses de traditions orientales, byzantines. Et il y a peut-être des échos à trouver dans la voix d'Abed Azriyeh, un compositeur syrien qui a mis en musique l'épopée de Gilgamesh.
الشمس وهبته الحسن والجمال وحدد الشجاعة والإقدام ثلثاه إله ثلثه الباقي إنسان أسلحته فتاكة ألقى الرعب في قلوب الناس بغى وظلمه لم يترك ابنا لأبيه لكنه رايؤوك فهو راينا لم يترك فتاة لحبيبها ولا ابنة مقاتل طيبة لأحد بغى وظلما فضج البشر بالنواح أناتهم بلغت الآلهة في السماء في السماء نادوا أرور العظيمة قائلين خلقت جلجامش خلقت جلجامش هلا خلقت له غريمة يصارعه باستمرار فتجد أوروك الراحة والهدوء تصورت أرور في نفسها صورة للإله آنو غسلت يديها أخذت طينا رمت الطين إلى القفر إلى البرية وفي البرية ولد أنكيدو كان من نسل نورت العجيب.
Une composition d'Abed Azrieh, un compositeur qui est né à Alep et qui met ici en musique un poème vieux comme le monde, vieux de plus de 4 millénaires, Gilgamesh. Je crois que vous travaillez sur ce texte en ce moment, Diane de Sellier.
Alors c'est un secret qui va être révélé, qui n'est donc plus un secret. Nous préparons une édition de Gilgamesh pour les 30 ans de la maison d'édition, dans une magnifique traduction qu'a faite Abed Azrieh lui-même. C'est un musicien, mais c'est également un poète d'exception. Et quand il nous a offert cette magnifique traduction, qui est publiée aujourd'hui chez Albin Michel, on a vraiment eu le sentiment qu'on était en train de révéler le texte effectivement le plus vieux de l'humanité. Et il le chante avec une sensibilité d'autant plus grande que c'est vraiment quelque chose qu'il a travaillé et qu'il a travaillé pendant très longtemps. Et je suis heureuse de travailler sur le texte le plus ancien de l'humanité, surtout qu'il relie ce sur quoi je travaille depuis tellement d'années, c'est-à-dire les textes à travers toutes les époques et surtout dans leur lien entre l'Occident et l'Orient. Et là, avec Gilgamesh, on est dans ce pont entre l'Orient et l'Occident. On retrouve des accents homériques. On retrouve également des éléments qui font penser au Ramayana de Valmiki que nous avons publié également, qui est la grande épopée indienne. Et on retrouve dans la recherche de Gilgamesh, qui est une recherche finalement d'immortalité, on retrouve tous ces accents que Abed Azrieh nous chante avec une telle sensibilité et une telle connaissance parce qu'il s'est confronté au texte. Quand il lit ici Uta Napishtim redemande à Gilgamesh qui il est, ce qu'il vient faire en ces lieux interdits au commun des mortels, Gilgamesh lui répond « Je viens parce que je recherche l'immortalité ». Et l'ancêtre lui dit « Mais pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur? Pourquoi la fatigue et l'épuisement marquent-ils ton visage défait? Pourquoi la grande chaleur et le grand froid ont-ils frappé ton visage? Pourquoi vas-tu errant dans le désert ?» Eh bien là, il nous rapproche de la condition humaine, de la recherche de chacun, de ce désir de chacun, de se dépasser et de vivre et de vivre une vie qui le transcende. Et c'est très émouvant d'entendre Abed Azrieh quand il le chante, et il le chante magnifiquement bien, surtout que c'est lui-même qui a composé les paroles de cette chanson.
Alors sur quelle représentation de cette épopée de Gilgamesh est-ce que vous vous basez pour travailler ?
Alors nous allons faire une double nouveauté, c'est-à-dire que pour la première fois, nous allons illustrer un ouvrage, non pas avec des peintures ou des vitraux comme nous l'avons déjà fait, mais avec des sculptures, ce que j'évitais de faire jusque-là parce que la sculpture n'est jamais que l'interprétation d'un regard selon l'angle avec lequel on la prend ou un bas-relief selon l'éclairage, on a une œuvre totalement différente. Mais cette fois-ci, nous allons prendre un photographe de génie qui s'appelle Jean-Christophe Ballot, qui s'est spécialisé dans la photographie de sculptures et de bas-reliefs qui vont être prises des plus anciennes sculptures et bas-reliefs de l'humanité qui ont été retrouvées dans le bassin mésopotamien il y a plus de 2000-3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est ça qui rend le livre des 30 ans très exceptionnel, parce que quelque part, on aura été le plus loin possible dans la remontée du temps, et pour se rendre compte de quoi ? Que les inquiétudes, il y a toutes ces années-là, donc 6000 ans, sont les mêmes que celles d'aujourd'hui. La réflexion sur le monde et sur l'homme est la même. La recherche d'immortalité ou de transcendance ou d'une humanité plus basé sur l'amour est toujours la même, et donc on va très loin, on est très heureux.
À vous écouter, Diane de Sellier, on comprend que vous avez eu de nombreuses occasions de voyage, de découvrir le monde. Vous naviguez entre différentes cultures littéraires, picturales, et vous allez nous raconter qu'est-ce qui vous a permis de travailler sur un autre univers, un autre voyage, celui de Baudelaire.
Thank you.
Celle qui nous invite au voyage voluptueux ce matin s'appelle Elsa Dreissig. Elle est accompagnée par le pianiste Jonathan Ware. Diane de Sellier, jusqu'à quel recoin de notre imagerie collective vous a mené Baudelaire? Est-ce que c'est un univers si particulier, un univers
en soi? Oui, c'est un univers très particulier qui a été vraiment un moment important dans la littérature parce que pour la première fois, Baudelaire étalait ses états d'âme, sa difficulté de vivre, ses aspirations vers la beauté, vers la cime et en même temps ses chutes permanentes dans l'abîme. Et son invitation au voyage est très belle parce que on sent qu'il y a encore de l'espoir, il parle du désir, il parle de tout ce qui brille, des soleils mouillés, du pays qui le ressemble. Et quand j'ai fait la recherche iconographique pour cet ouvrage-là, ça a été un moment très intime parce qu'il a fallu trouver pour chaque poème quel était le passage qui était le plus important, le plus révélateur du poème de Baudelaire et l'accompagner le mieux possible. Et je pense que ce voyage auquel il nous invite et auquel nous invitons nos lecteurs est un petit peu le symbole de toute la collection dont je parle d'ailleurs dans le livre que j'ai sorti il y a peu de temps qui s'appelle « Et ainsi le désir me mène » qui est en fait un vers de Pétrarque mais qui est une phrase, un vers que l'on pourrait attribuer aussi à Baudelaire « Et ainsi le désir me mène » c'est-à-dire que toute cette invitation au voyage, à la beauté, toutes ces difficultés justement pour y accéder malgré tous les écueils et malgré toutes les difficultés que l'on rencontre, Baudelaire en parle extraordinairement bien et nous avons voulu le mettre en image le mieux possible. Il y a une image qui me parle beaucoup dans Baudelaire, qui a été difficile à choisir, c'est un bateau échoué, un magnifique voilier échoué avec des voiles déchirées qui est au bord de l'eau. Et je l'ai mis pour accompagner ce poème de Baudelaire sur le voyage justement, mais un voyage beaucoup plus triste parce qu'il le conduit vers la mort et qui dit aux morts, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort appareillon. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Et c'est vraiment nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons qui rebondit et qui est un petit peu le fer de lance de toute cette collection. C'est donner de la beauté, interroger soi-même l'image, le texte et voyager des confins de l'Orient jusqu'en Occident. On est allé jusqu'au Japon, jusqu'en Inde, jusque dans les pays persans, Moyen-Orient et on va y retourner avec Gilgamesh.
C'est très intéressant d'ailleurs les correspondances que vous établissez. On aimerait qu'il y ait en fait un livre qui peut-être mette en vis-à-vis tous ces différents paysages que vous avez établis au cours de ces ouvrages. Et vous avez établi une correspondance entre la lecture d'Alphonse Daudet que vous avez donnée en ouverture de cette émission et un poème fondateur pour l'hindouisme, un poème central, Tumad Bharata. Vous voulez bien nous le lire ?
Oui, alors c'est un extrait de la Bhagavad Gita, en fait, qui est un petit peu le noyau philosophique et mystique du Mahabharata, qui est vraiment quelque chant de toute beauté. Et la Bhagavad Gita, dans le chant 7, les versets 8 et 9, le reprend ainsi. « Je suis le goût de l'eau, la lumière de la lune et du soleil, la syllabe des savoirs sacrés, la vibration sonore dans l'espace, la virilité des hommes, le parfum de la terre. »
Pour finir, Diane de Sellier, je vous propose qu'on quitte le raffinement de la poésie hindoue pour embrasser un tout autre univers, celui des contes de Perrault, ici mis en musique par Jacques Offenbach.
le royaume du roi Bobèche, vers l'année 1450, existe un petit village que dominent les sombres tourelles du manoir seigneurial de Barbe Bleue. Sur la place de ce village s'élèvent deux jolies cabanes, celle du berger Saphir et celle de Fleurette. Vêtue de satin et le geste affecté, Saphir sort de sa maisonnette pour admirer le lever du soleil sur la campagne.
Il y a eu plein de possibilités d'illustrer ce recueil des contes de Perrault que vous venez de publier, Diane de Cellier. On aurait pu choisir la Cenerentola de Rossini. Là, c'était une barbe bleue de Jacques Offenbach, donc un barbe bleue bouffon sur un livret de Henri Meyac et Ludovic Halévy. Il y a évidemment les barbes bleues de Mendelssohn, de Paul Dukas, et la plus connue, la barbe bleue de Béla Bartok. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix d'Offenbach?
Oh, écoutez, je l'ai choisi parce que pour Noël l'année dernière, nous sommes allés à Marseille écouter cet opéra d'Offenbach qui était remarquablement bien interprété avec la direction musicale de Naber Abbassi, et puis on avait une très très belle répartition, beaucoup d'humour, beaucoup Barbe Bleue était joué par Florian Laconi qui était extraordinaire dans ce rôle. Et puis je trouvais que c'était sympathique un petit peu de dédramatiser ce conte de la Barbe Bleue qui est quand même un conte terrible, même si exceptionnellement il finit bien. C'est quand même un conte très 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 lourd, toutes ces femmes qui sont tuées les unes derrière les autres parce qu'elles veulent accéder à la curiosité, d'autres diront à la connaissance. Il y a vraiment un dilemme qui se pose là, est-ce qu'il faut être curieux ou est-ce qu'au contraire il faut obéir bêtement aux ordres qu'on peut vous donner. Et les contes de Perrault sont des contes extrêmement sérieux que Perrault avait écrit d'ailleurs pour les adultes, et nous les avons illustrés avec l'art brut. Et pourquoi l'art brut? Parce que l'art brut reprend toutes les fantasmes de ces personnes qui sont enfermées dans des hôpitaux psychiatriques, en eux-mêmes, dans des prisons, qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans le monde et qui ont trouvé un petit peu comme exutoire ou comme manière d'exprimer les arts graphiques, le dessin, la peinture, la sculpture et tous ces moyens-là sans avoir aucune culture artistique ni aucune intention de faire carrière dans l'art. Et c'est assez étonnant de voir comment les peurs, les désirs, les rêves, les angoisses, comment on les retrouve de la même façon à travers ces contes qui sont à la fois pour les adultes et pour les enfants, qui sont d'ailleurs des contes à lire entre les adultes et les enfants pour revivre des expériences communes, et ces illustrations qui semblent souvent faites pour le conte. Et d'ailleurs, on a chaque fois repris de nouveau, comme on fait très souvent, un petit texte, une petite phrase en exergue pour accompagner l'image, et on se rend compte qu'on est exactement dans le même univers. Et cet univers-là, l'univers du conte, c'est l'univers de la mythologie, et c'est l'univers aussi de la spiritualité, des grands textes soufis, mystiques, chrétiens, parce que on parle une fois de plus de l'homme, de son humanité, et de tout ce qu'il a besoin de transcender, de dépasser en lui, de comprendre et de vivre.
C'est un très beau cadeau de Noël, en tout cas, ces contes de Perrault illustrés par l'art brut. On aurait envie à vous entendre ce matin, de créer des playlists spéciales pour chacun des ouvrages d'art que vous avez édités. C'est peut-être un projet que vous pourriez avoir. Je vous remercie en tout cas, Diane de Cellier, d'avoir été l'invitée de Musique et moi ce matin. Merci beaucoup d'avoir donné cet entretien à distance, de nous avoir accordé ces moments-là. Bernard Laniel était à la technique ce matin. Cyrielle Weber était à la réalisation. Attachée de production, Marie Ferdinand. Passez un très beau dimanche sur France Musique. Et à la semaine prochaine.
Merci Priscille.
À réécouter sur francemusique.fr.